France Inter, le 18-20.
Et voici le téléphone sonne, vous nous écoutez sur France Inter, nous vous informons, vous avez entendu Sébastien Paour, le journal, vous regardez la télévision, les 20h, les magazines, les chaînes Tout Info, vous lisez un journal ou plusieurs titres sur Internet ou en allant au kiosque, et puis il y a les réseaux sociaux, vous suivez des journalistes sur Facebook ou Twitter, vous lisez des blogs, ce sont vos sources d'informations, de décryptage. Qu'attendez-vous du travail des journalistes? Qu'est-ce qui alimente peut-être votre méfiance vis-à-vis des médias? Avez-vous le sentiment que des pouvoirs financiers ont une influence sur la presse? Que pensez-vous des campagnes hostiles que mènent certains partis politiques en ce moment contre la presse, qualifiée de parti médiatique? De tout cela, nous allons parler ce soir à l'occasion des Assises internationales du journalisme qui se déroulent jusqu'à vendredi à Tours, en partenariat avec France Inter.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Et un premier appel, c'est Patrice qui est avec nous. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Votre remarque, votre question
que... Oui, je pense qu'il faut peut-être déjà distinguer d'une part le journalisme d'investigation de celui du journalisme des Nouvelles Fraîches, et d'autre part le journalisme de radio et de télévision. Et on peut noter qu'il y a des qualités vraiment différentes dans chaque cas. Votre question pose aussi trois paramètres, c'est qu'est-ce qu'on donne comme information, qu'est-ce qu'on ne donne pas comme information aussi, ce qui est très important, et comment on la donne. Je crois que le mieux c'est de prendre des exemples. Si vous prenez le journalisme que tout le monde connaît à la télévision, les infos de 13h, les infos de 20h, ben, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de jugeote. Entre le journalisme de TF1 à 13h, qui est d'une médiocrité lamentable, et puis le 28 minutes d'Arte, il n'y a pas photo. Hein. D'autre part, comment on diffuse, comment on interroge par exemple un homme politique, et ça, on a pu le voir avec Jean-Luc Mélenchon, la façon la plus négligée pour l'interroger, où on lui coupait la parole sans arrêt, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et puis qu'est-ce qu'on diffuse? Est-ce qu'on ne diffuse pas? Et par exemple, je trouve que vous avez fait un travail remarquable sur France Inter il y a quelques mois, lorsque vous avez été les premiers à révéler les difficultés de la QVPR. Et oui. Vous l'avez révélé depuis le matin. Et je suis allé voir par curiosité les infos de 13h sur les chaînes. Il n'y avait absolument rien. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ça dérange. Hein. Alors que ben, je dis sans flatterie, sur France Inter, on a le droit quand même à une certaine divulgation d'informations qui peuvent gêner, vous donner la parole, c'est très bien. Patrice. Mais je crois que les gens doivent se méfier de tout ce système où il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de radios qui sont à la botte des grands lobbies.
Bon, c'est Patrice, très bien, vous avez parfaitement posé les termes essentiels du débat de l'émission de ce soir. Pour vous répondre, Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Catherine Nail, qui est directrice de l'information de France Inter, ancienne directrice de l'information de TF1 et de LCI. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et puis dans les studios de France Bleu Touraine à Tours, Jérôme Bouvier. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre.
Vous avez été journaliste à Radio France, médiateur aussi, et vous dirigez l'association Journalisme et Citoyenneté qui organise ces assises internationales du journalisme à Tours. Alors ce premier témoignage de Patrice Catherine Nel, qu'est-ce que vous en pensez? Qui fait une distinction entre différents médias, certains qui osent, d'autres qui n'osent pas, certains qui sont complaisants, d'autres pas. Finalement, oui. On a du choix.
Plus, oui, ça, et de plus en plus de choix. Et je rajouterai à ce qu'il a dit, effectivement, et ce que vous avez dit, Pierre, c'est-à-dire la prolifération d'informations sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qui parfois sont de l'information et parfois n'en sont pas. Moi, je pense que il n'y a pas forcément des médias qui informent bien et des médias qui n'informent pas bien. Il y a des journalistes qui font bien leur travail. Et quel que soit le média, qui font bien leur travail ou pas, qui se posent les bonnes questions ou pas, qui interrogent bien les hommes politiques ou pas. Moi, je pense que le journalisme, c'est un, vérifier ces informations, deux, contextualiser, et l'auditeur le disait, effectivement, c'est important de comprendre pourquoi on donne une information et le contexte de cette information. Et trois, c'est de hiérarchiser cette information. C'est, à mon avis, le rôle de tout journaliste. On essaye, et chacun, je pense, dans le média qu'il occupe et la place qu'il occupe, essaye de le faire le mieux possible. Après, le zéro faute n'existe pas, quel que soit le média, je pense. Il faut être humble aussi.
Patrice évoquait dans son intervention les pouvoirs financiers qui seraient là et qui auraient une influence sur la presse. Laurent Geoffrin, quel est le principal adversaire de la presse libre, pluraliste, le pouvoir politique ou le pouvoir financier économique?
C'est tous les pouvoirs, il y a des pressions, effectivement, et la question n'est pas de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas, mais si on y résiste ou si on n'y résiste pas.
Et comment on fait pour y résister?
Alors, s'agissant, parce qu'il faut distinguer les choses, s'agissant du pouvoir financier, c'est le pouvoir des actionnaires. Libération, ça, je prends l'exemple de Libération, celui que je connais bien. Ça fait 20 ans maintenant qu'on a des actionnaires privés. Avant, c'était les journalistes qui possédaient le journal, mais comme on avait besoin de capitaux pour investir, on a fait appel à des actionnaires privés. Donc, c'est un problème, effectivement, est-ce qu'ils auront une influence ou pas. Donc, on a mis en place des règles. J'en ai pour 30 secondes, mais comme on nous critique toujours sur cette question-là, en disant vous êtes la possession de Monsieur Tartampion, bidule, donc c'est lui
pour
qui...
Vous, on parle de Monsieur Drahi.
Par exemple.
Voilà.
Mais
avant, c'est lui.
Avant, c'était Rothschild, avant, oui. C'était Jérôme Sédoux, etc. Donc on a mis en place des institutions internes. Et les gens ne le disent jamais. C'est-à-dire qu'on nous critique, mais on montre pas comment on fonctionne. Quelles sont ces institutions en deux mots? Un, le directeur de la rédaction et de la publication, et le co-gérant, c'est d'ailleurs moi. Je suis désigné, enfin pas désigné, proposé par l'actionnaire. Mais ensuite, il y a un vote à bulletin secret de l'ensemble de l'équipe de Libération qui est... peut donc exercer un droit de veto sur ma personne. J'ai été, comme j'ai fait des allers-retours entre plusieurs journaux, j'ai été élu 3 fois, à 60% à peu près, un peu plus, un peu moins. Donc si, je suppose que si la rédaction considérait que j'étais à la botte de l'actionnaire, j'aurais pas peut-être été élu une fois, mais pas 3 fois. Premier point. Deuxième point, il y a une charte, un contrat qui est signé par l'actionnaire, qui est signé par la direction de la rédaction et qui est signé par la société des rédacteurs, qui définit un certain nombre de règles de traitement de l'information et d'indépendance à l'égard de la publicité et de l'actionnaire. Mmh. Et ensuite, il y a une société des rédacteurs qui a pour mission principale de veiller à l'application de cette charte. Je n'ai jamais eu, dans l'histoire de ma direction de Libération en tout cas, de motion ou de mise en cause sur le thème « la charte n'est pas respectée ». Jamais.
Laurent,
donc voilà, ça c'est le fonctionnement concret.
Monsieur Drahi est un homme d'affaires puissant, il investit dans Libération.
Oui.
Mais alors il investit pour le plaisir, il n'a pas envie éventuellement de jouer un peu sur la ligne éditoriale de ce journal dont il donne de l'argent pour le plaisir de donner de l'argent.
Non, il a certainement des idées derrière la tête, je ne sais pas très bien lesquelles.
À lesquelles?
Je dis, il a certainement des idées derrière la tête, mais je ne sais pas lesquelles.
Oui.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a jamais demandé de bouger la ligne du journal et il fait pas de commentaires sur le contenu. Donc déjà, ça facilite les choses. Deuxièmement, alors pourquoi est-ce qu'il a racheté Libération? Je pense que c'est parce qu'il a une stratégie de médias et de communication téléphonique, puisqu'il est propriétaire de SFR, qui consiste à mettre des contenus dans les tuyaux. Donc il pense que Libération est un contenu utile pour ses tuyaux, si je puis dire. Enfin, pour ses... et il essaye de faire un groupe de télévision, de radio et de presse écrite.
Jérôme Bouvier veut intervenir. Je rappelle Jérôme Bouvier qui dirige l'association Journalisme et Citoyenneté et qui organise ces assises internationales du journalisme. Il est à Tours. Jérôme, allez-y.
Mais écoutez, d'abord, par rapport à l'affirmation qu'il y aurait plusieurs journalismes, là, c'est une affirmation à laquelle je ne crois pas. Il y a 35 000 journalistes en France, et ici, pendant 4 jours à Tours, comme chaque année, on rassemble les acteurs de la profession. Il y a la presse professionnelle, il y a la presse qui accompagne mes passions, c'est-à-dire la presse de loisirs. Je suis un passionné de jardin, de déco ou de planche à voile. Il y a la presse d'information politique et générale, il y a la télé, il y a le web. Tout ça, c'est une multitude de supports et de communautés. C'est une multitude de pratiques, mais il reste le fondement principal, c'est qu'il y a derrière un homme, une femme, dont le métier, comme l'a dit Catherine Ney tout à l'heure, est d'aller vérifier l'information. On en reparlera, j'espère, tout à l'heure avec cette grande enquête sur le journalisme utile que vous parrainez, qui vérifie l'information, qui la met en perspective et qui aide à comprendre le monde. Dans cette grande enquête dont nous avons dévoyé les premières lignes dimanche sur votre antenne, mais dont on va continuer de parler, parce qu'il y a plus de 26 questions, sur l'utilité du journalisme, on voit une chose importante, c'est que dans ce climat que l'on décrit comme un climat de défiance absolue entre les journalistes et leur public, on se rend compte qu'il faut distinguer deux choses. 92% des personnes qui ont été interrogées disent « votre métier est utile », voire très utile à la démocratie. Donc il peut y avoir des critiques sur notre pratique, Et en même temps, il y a un socle extrêmement fort dans notre société républicaine pour dire il n'y a pas de démocratie sans journalisme. Et il y a une affirmation selon laquelle, à l'avenir, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un pays sans journalisme, parce qu'après tout, maintenant, chacun a son blog, son smartphone et peut s'adresser au monde entier. Et la réponse est à 84%. Non, il faudra toujours des journalismes pour, et là, c'est là où c'est intéressant, m'aider à vérifier les choses, parce que je suis perdu, le sondage le dit bien, je suis perdu dans toutes ces informations qui m'arrivent, et je n'arrive plus à distinguer ce qui est du vrai du faux, et donc notre première mission qui nous est confiée, c'est de vérifier l'information, la deuxième, c'est de m'aider à comprendre le monde, et puis la troisième, c'est de faire de l'investigation. Donc on est renvoyé à nos fondamentaux, si j'ose dire, et avec un socle qui est quand même très intéressant, c'est-à-dire que notre utilité sociale, sociétale, démocratique n'est pas remise en cause. C'est à nous de faire la preuve que, par contre, nous inscrivons dans ce débat de l'utilité de ce que nous apportons à nos publics.
Là, Jérôme, vous parliez de cette étude de l'Institut Via Voice réalisée pour ces assises internationales du journalisme. J'en rappelle les chiffres essentiels. Vous le disiez, plus de 9 Français sur 10, 92%, considèrent le journalisme comme un métier utile. Interrogés sur ce qu'ils attendent en priorité des journalistes, 61% des Français répondent en premier qu'ils vérifient les informations fausses, les rumeurs, la désinformation. 87% des Français trouvent qu'il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur Internet et sur les réseaux sociaux. 71% estiment qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le site d'un média sérieux relayant de vraies informations et des sites relayant toutes sortes d'informations non vérifiées. Plus de 8 Français sur 10, 84%, estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique. Vous le disiez, Jérôme. Catherine Nel, en voyant les résultats de cette enquête via Voice, un commentaire ?
Moi, je pense que nous avons, nous journalistes, dans un monde qui est de plus en plus complexe, effectivement, beaucoup de choses à faire, y compris l'éducation aux médias et à destination des plus jeunes. Je pense que c'est un point très, très important. Sans doute révélé un peu par la suite d'attentats commis sur le territoire français depuis 2015. Je pense que toutes les rédactions se sont posées ce genre de problème, que toutes les rédactions doivent aussi d'ailleurs trier un peu le bon grain de livret de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il se passe de bonnes choses aussi sur les réseaux sociaux, mais cette éducation aux médias, le fait par exemple, si je ne relève qu'une chose, que les gens ne sachent pas très bien repérer un site d'information dit sérieux aux autres, ça me semble un peu préoccupant, effectivement. Donc nous avons un travail encore de pédagogie à faire.
Commentaire d'auditeur sur le site de l'émission à propos des vidéos virales. La vidéo virale qui se répand à toute vitesse sur le net, qui est partagée très vite des centaines de milliers de fois. Un geste, une phrase, une scène filmée, enregistrée. Est-ce que c'est un plus ou alors quels sont les dangers de cette information TGV ? Laurent Geoffrin.
Le danger, c'est de laisser l'image à elle-même. Puisqu'on sait bien que l'image est souvent ambiguë. S'il n'y a pas une mise en contexte, une légende, ou un texte en dessous, un article, qui explique ce qu'on voit, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc., c'est dangereux, parce qu'on peut l'interviewer, on peut l'interpréter comme on veut, et on peut ça n'est vérifié par personne. Vous savez, quand on publie une photo dans un journal, on s'est envoyé soit par des photographes, soit par des agences de photos, on a toujours les coordonnées, c'est-à-dire qui a pris la photo, dans quelles circonstances, est-ce que cette agence est connue, sérieuse ou pas, etc. Quand on a des images qui arrivent et qui ne sont pas sourcées, on ne les publie pas, en principe. Ou on vérifie. On commence par vérifier, on appelle l'endroit où ça se passe, est-ce qu'il y avait quelqu'un, qui, comment, etc. Et tant qu'on n'a pas ces vérifications, ces recoupements, on ne publie pas en principe. Ceux qui publient ne sont pas sérieux.
Jérôme Bouvier.
Oui, je voudrais dire un mot là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Il y a, en ce moment même où nous parlons aux assises du journalisme à Tours, il y a un débat avec les 4 acteurs qui se sont lancés cette année et l'année dernière sur ces vidéos d'information virale, parce que c'est sans doute un moyen aujourd'hui d'aller toucher les jeunes publics. Donc il y a Combini, il y a Brut, et puis il y a les nouveaux entrants. Il y a un ancien de Libé que Laurent connaît bien, Johan Heufnagel avec Loopsider, et puis il y a Emmanuel Chin qui lance Monkey. Et tous ont un projet qui est comme intéressant. intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on peut en 3 minutes faire une information de qualité qui soit accessible pour les jeunes publics, les 15-25 justement, qui s'alimentent, j'allais dire, uniquement à partir de leur smartphone. Et donc il y a un enjeu aussi de bataille d'information de qualité sur ce créneau-là. C'est-à-dire que si on laisse uniquement chacun faire sa vidéo, son Snapchat et puis le balancer sur un réseau, évidemment il y a un risque. Mais si les professionnels s'emparent de cette vidéo d'information virale pour aller vers le jeune public et leur fournir une information de qualité, je pense qu'il y a un vrai enjeu intéressant pour l'ensemble du journalisme.
Olivier est en ligne avec nous. Bonsoir Olivier, merci d'écouter le téléphone sonne. Vous êtes sur l'antenne.
Oui, bonsoir.
C'est à vous.
Moi, je voulais faire une remarque, c'est que je pense qu'il y a plusieurs journalismes, c'est-à-dire qu'il y a le journalisme public, le journalisme privé, il y a le journalisme de l'image, comme on parlait des vidéos virales. Je pense que l'image est un dommage à l'information, contrairement à la presse écrite, fervent lecteur du Monde diplomatique, par exemple. Et je pense que effectivement, il y a un problème là-dessus, c'est que les informations ne se valent toutes, alors que non, elles ne se valent pas toutes. Et malheureusement, il y a quand même dans toute cette presse, même dans le service public, au niveau économique, la pensée de l'économie orthodoxe, comme on dit trivialement, la pensée libérale. Hein. Et moi, je suis auditeur de France Inter depuis 25 ans, je crois.
Merci.
Ça me rajeunit pas.
Formidable.
Et j'ai bien vu quand même un bon tournant pour le traité, quoi, le traité de Lisbonne. Et effectivement, on voit que de plus en plus, les intervenants restent dans le côté économique orthodoxe. Et ça oppose les gens. D'ailleurs, je crois excusez-moi juste une petite remarque. Allez-y. Je crois que la personne la plus regardée sur YouTube de chez vous, ça doit être Guillaume Meurice. Je pense que c'est un symbole. Vous voyez, c'est que Dominique Seux...
Olivier, c'est votre point de vue. Vous avez le sentiment que bon, il y a une sorte d'économie libérale qui serait mise en avant systématiquement sur France Inter. C'est pas notre sentiment, Catherine Neil. On essaie de faire entendre tous les points de vue.
Ça n'est pas notre sentiment. Et je pense que, vu le nombre d'émissions d'information que nous consacrons sur l'antenne de France Inter, tous les points de vue peuvent s'exprimer, il me semble. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que nul n'est captif. Les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs ont des usages, des habitudes d'information qui évoluent. Ils ont de plus en plus de propositions et ils peuvent faire le choix de zapper, d'acheter un autre journal ou d'écouter une autre radio. Si à un moment donné, chaque média avec sa propre ligne éditoriale arrive à conserver, à entamer un dialogue avec ses auditeurs, ses téléspectateurs, avoir un contrat de confiance avec eux, c'est qu'à un moment donné, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Donc certes, nous avons sans doute des progrès encore à faire. Certes, je pense que nous avons été même secoués par un certain nombre d'affaires qui ont pu traverser la presse dans son ensemble, et on doit s'interroger. Mais il me semble que les bonnes pratiques, qui sont de plus en plus et plus que jamais mises au point, soit ensemble de manière transverse, soit à l'intérieur de chaque rédaction, font que tout de même nous donnons des garanties à ceux qui nous lisent, qui nous écoutent ou qui nous regardent de plus en plus.
Alors, nombreuses remarques sur le site de l'émission à propos de l'indépendance des médias, de l'influence des politiques sur les médias publics ou privés. Le documentariste Bertrand Delay, nommé aujourd'hui à la tête de la chaîne parlementaire, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Il est l'auteur de 2 documentaires plutôt bienveillants pour le président. Laurent Geoffrin, c'est un mauvais signe là qui est donné.
C'est une chose assez surprenante, assez baroque. J'ai mis ça dans ma lettre politique aujourd'hui. Je suis allé voir son blog.
Oui.
Il faisait un blog, en tout cas, sur le Huffington Post. Et alors là, c'est quasiment la Corée du Nord. Macron, c'est formidable, il a toujours raison. Il a compris le peuple français, il va donner sa fierté à la France. Enfin, c'est des formules comme ça, c'est pas seulement des approbations, c'est dithyrambique. Quoi. Mmh. Alors, je connais Bertrand Delay, par ailleurs, c'est un homme très cultivé, très sympathique et compétent, je crois. Mais c'est vrai qu'il s'est engagé pour Macron de manière tout à fait ouverte, répétée, notoire. Quoi. Et la majorité en marche de l'Assemblée le nomme lui. Alors, c'est, à mon avis, il faudrait revenir en arrière dans les nominations de ce genre, mais j'ai pas souvenir, enfin, sauf du temps de l'ORTF, mais
voilà,
j'ai pas souvenir de
la France Insoumise dit que c'était aussi un parfum d'ORTF.
Bah oui, c'est quelqu'un qui était aussi engagé. Il a le droit de s'engager pour Macron, c'est pas le problème. Mais là, il est quand même censé s'occuper d'un service public qui parle de l'Assemblée, pas seulement de la majorité de l'Assemblée.
Et si on ajoute les projets du gouvernement qui veut retirer au CSA la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, ça reviendrait au conseil d'administration de ces entreprises. Bon, qui nomme les membres des conseils d'administration ?
L'État. Ah, c'est l'État, oui.
Oui, Catherine Nel.
Mais il faut...
comprenez qu'il y ait de la part des auditeurs une méfiance
mais
quand ils voient ce genre d'informations.
Et je pense que nous y sommes aussi, nous, vigilants. Après, il ne faut pas non plus se tromper de débat. C'est-à-dire que ce soit le CSA, dont parfois le président est nommé par le président de la République ou par des assemblées, ou la majorité des assemblées, que ce soit un président qui nomme directement, que ce soit un conseil d'administration, dont le service public, il y a forcément un lien, une tutelle, qui reste l'État. On peut l'habiller de la manière que l'on souhaite ou que l'on veut. Effectivement, la tutelle reste l'État. Ensuite, aux rédactions des services publics de maintenir cette indépendance qui, à mon sens, est juste la garantie d'une survie, d'une pérennité et, encore une fois, d'une marque de confiance des auditeurs, des téléspectateurs.
Pauline est avec nous. Bonsoir Pauline, merci de nous avoir appelés. Maintenant, c'est à vous sur l'antenne.
Bonsoir. Tout d'abord, merci pour le sujet de votre émission et vos émissions en général que j'écoute tous les jours. Alors je voulais d'abord faire une remarque en fait sur ce que j'attends donc des journalistes en disant que souvent je suis frustrée que ce soit les journalistes télé ou les journalistes radio par rapport au temps qui est laissé aux interviewés pour répondre. Je suis d'accord qu'il peut y avoir un espèce de corps à corps journalistique justement pour obtenir une réponse sur un sujet un peu difficile. Mais en fait, je suis extrêmement frustrée parce que ça ne laisse pas suffisamment de temps justement pour que l'interviewé ait le temps de formuler une réponse claire qui aille vraiment au fond des choses. Et c'est vraiment cette question de temps, de prendre le temps d'aborder les choses dans toute leur complexité qui me chagrine un petit peu. Et ma deuxième remarque, concernera principalement les journalistes à la télévision, parce que je n'en peux absolument plus d'avoir ce ton dramatique au journal télévisé, où en fait on a un ton uniforme pour tous les types de sujets qui nous fait penser que les intempéries sont au même niveau que le dernier attentat à Mossoul. Enfin, ça me donne envie de couper la télévision et d'arrêter de m'informer.
Eh ben, voilà. Sur ces deux points, on va vous répondre. Catherine Nel, qui est directrice de l'information de France Inter, mais qui a aussi dirigé l'information à TF1 et sur LCI, peut parler de radio et de télévision. D'abord, cette première remarque de Pauline concernant les interviews, elle a le sentiment qu'on fait des interruptions un peu trop souvent.
Mais je pense que vous avez raison, Pauline, et parfois même les journalistes qui font les interviews sont eux-mêmes frustrés par ce manque de temps. Ensuite, il y a des émissions à temps long. Il y a des émissions d'une heure où effectivement on a plus le temps de s'installer dans une problématique, qu'elle soit politique, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit économique. Je pense qu'il y a de la place pour les deux finalement. Les deux modes d'interview, les deux modes d'explication, les deux modes d'interrogation. Mais parfois vous avez raison, je peux concevoir que vous soyez frustré. Je le conçois. Sur
le ton à la télévision,
que ce soit
un ton dramatique.
À la télévision, oui, écoutez, je pense surtout qu'on a un problème général de ton des journalistes, parfois en télévision, parfois sur les chaînes de radio, qui est peut-être dû aussi au fait qu'il y a une certaine uniformisation de la formation des journalistes qui sont formés dans des écoles. Je pense qu'auparavant, on pouvait arriver à être journaliste de différentes façons. On le peut de moins en moins, et je pense que effectivement ça formate un petit peu, y compris sur le ton. Ensuite, il y a une hiérarchisation de l'information. On ne traite effectivement pas les informations, que ce soit dans un journal télévisé ou que ce soit dans un journal radiophonique, ou même dans un journal de presse écrite, mais ça, Laurent vous le dira, de la même façon. Si on peut avoir des problèmes de ton, la hiérarchie, elle reste très importante, et ce qu'on vous raconte en début d'un journal ne vaut pas effectivement ce qu'on peut vous raconter à la fin, même si toute information vaut quelque chose en soi, et si nous choisissons de les traiter, c'est parce qu'elles valent toutes quelque chose. Mais tout de même, on ne fait pas la même chose en début, au milieu ou à la fin d'un journal.
Jérôme Bouvier, vous voulez intervenir ? Jérôme.
Oui, parce que cette question de notre auditrice sur le temps me paraît importante. Il y a, bon, elle pose la question du rythme, mais ça c'est autre chose, mais aussi le temps est sans doute la valeur la plus importante de l'information de qualité. C'est-à-dire qu'une information de qualité, ça prend du temps pour être fabriquée. Je pense qu'un des grands enjeux dont le public n'est pas forcément conscient, c'est que si un journaliste a du temps pour aller enquêter, s'il a du temps pour traduire son enquête, eh bien on sait qu'on aura probablement un reportage, une enquête de qualité et qui va nourrir le lecteur. À l'heure où la presse papier, notamment, connaît une grave crise, puisqu'elle est bousculée par les usages d'Internet, on voit bien qu'elle se sauve, entre guillemets, en allant chercher des formats longs, avec un reportage qui a duré forcément beaucoup de temps. Et donc ça, c'est une économie qu'il faut trouver. Je pense que beaucoup de jeunes journalistes, dont parlait Catherine Neil, qui sont effectivement un peu formatés, mais à qui on promet un avenir, après 7 ou 8 ans d'études, qui consiste à bâtonner des dépêches derrière Internet pour des sites Internet, ne peuvent pas être satisfaits de ce métier, parce qu'ils ne sont plus dans la production d'une information. Ils ne sont plus dans l'humain. Je pense aussi qu'il faut que le journaliste garde sa capacité d'aller au-devant de l'humain et de traduire cette vie de nos concitoyens. C'est aussi ça qu'on nous demande. Donc le temps qui est évoqué me paraît être une question principale de la qualité de l'information.
Dominique, bonsoir Dominique.
Oui, bonsoir.
C'est à vous. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir. Oui, je voulais déjà vous remercier pour cette émission. Et puis moi, j'écoute beaucoup France Inter, notamment la plage horaire du 7-9. Je suis très sensible à la qualité de ce programme, avec un vrai regard en fait qui est porté sur le monde qui nous entoure. Voilà, c'est très intéressant. Toutefois, moi, j'ai constaté qu'il y avait une part qui était assez importante, j'ai l'impression que c'est assez récent, qui était donnée au traitement des faits divers et que c'était repris après dans différentes éditions de la journée. Ça peut être des accidents de bus, et je trouve que ça, voilà, je vois pas en quoi ça peut participer vraiment à la qualité d'une information, et je trouve que ça égare un peu justement dans la ligne éditoriale de France Inter, parce que voilà, ça expose des gens qui sont dans le domaine de leur vie privée, sur des faits divers, c'est des choses qui ont existé, qui existeront toujours, et je vois pas pourquoi ça mérite un traitement aussi important sur votre antenne. Voilà.
Catherine Neil, sur ce problème, ce dossier des faits divers.
Oui, oui, ce qui est une grande question. On a toujours tendance à dire qu'un fait divers peut être exemplaire et illustrer une tendance sociétale. Et à ce sens, je pense que c'est assez intéressant. Je pense aussi que on ne peut pas, même si chacun à ses angles, chacun à son traitement, passer sous silence la mort d'une dizaine d'enfants dans un accident de car ou effectivement, voilà, les méfaits d'un présumé tueur en série dans d'autres affaires. Après, sur France Inter, nous ne feuilletonnons pas. Sur France Inter, nous donnons les informations, nous les traitons avec effectivement cette tendance à rester sur le factuel et les informations. Mais je pense que ça un intérêt, effectivement, pour éclairer à un moment donné, pour informer les auditeurs, tout simplement.
Laurent Geoffrin, directeur de Libération, le fait divers peut aussi révéler des faits de société.
Mais le rôle des journaux, c'est de refléter la vie. Oui. Alors, chaque journal a sa manière de le faire, évidemment. Mais le fait divers, ce sont des histoires humaines. Et l'expérience des hommes et des femmes, l'expérience personnelle, quoi, dramatique, c'est très intéressant, c'est très fort. Madame Bovary, c'est un fait divers, par exemple. Et vous avez des romans sur les faits divers, là, autant que vous voulez. Et l'affaire Ramadan, c'est un fait divers. Là, il ne faut pas en parler. Pourtant, on voit bien que c'est bien autre chose qu'un fait divers. Les principaux prédicateurs musulmans, français, enfin suisses en l'occurrence, est accusé d'agression sexuelle. Donc c'est vrai, c'est faux. Il a des soutiens, il a des gens qui le critiquent. On voit bien que ça a une résonance qui va bien au-delà du simple la simple accusation de comportement délictueux ou criminel. Et donc, à Libération, depuis toujours, on considère que le fait divers est, comme vous disiez d'ailleurs, un révélateur, à la fois de l'expérience humaine, dans ce qu'elle a de plus fort et de plus dramatique, c'est la confrontation avec la violence, avec la mort, c'est important. Et deuxièmement, ça révèle évidemment des mécanismes sociaux qu'on cherche à mettre à jour, à expliquer ou à dénoncer, le cas échéant. Et donc, c'est une entrée très forte dans la vie de la société.
Yves, bonsoir Yves, merci de participer à notre émission.
Oui, bonsoir France Inter, et merci pour votre travail. Le journalisme devrait être sacralisé presque au niveau de la justice. Et ma question est importante. Je voudrais savoir si vous êtes organisé avec un ordre comme les notaires, les médecins, qui seraient capables de vous sanctionner au cas où vous auriez un comportement peu respectueux ou compromettant dans votre déontologie professionnelle.
On va vous répondre. Jérôme Bouvier. Jérôme.
Écoutez, c'est une grande question, la question de l'autorégulation. Elle est en débat depuis des années au sein de la profession. Il y a deux tentatives. Il y en a une qui consisterait à dire c'est à la loi de régler les choses. Là, il y a une grande loi de la presse qui est celle de 1881. Et puis vous savez qu'il y a un débat aussi qui est en train de s'ouvrir. La ministre de la Culture viendra d'ailleurs demain à Tours pour présenter. C'est le projet de loi pour lutter contre les fake news qui consisterait à laisser aux juges le soin de déterminer ce qui est une information vraie ou une information fausse. Et je pense raisonnablement que c'est plutôt aux journalistes de faire ce travail, surtout dans le temps des campagnes électorales, et que c'est aussi, j'aimerais qu'on revienne peut-être tout à l'heure sur la question de l'éducation à l'information qu'évoquait Catherine Ney, dans la grande enquête sur le journalisme utile, le public nous dit, c'est d'abord à vous de vérifier l'info plutôt qu'au juge, et ensuite c'est à l'éducation à l'information d'aider à chacun à se prémunir contre les fausses informations. Donc je pense qu'il y a un gros champ qui est là-dessus. Mais alors sur l'autorégulation, demain, il y a plusieurs propositions qui seront mises sur la table. Il y en a une qui existe depuis longtemps et qui pourrait peut-être advenir un jour, c'est qu'il y ait un conseil de déontologie qui soit géré par des journalistes, des éditeurs au sens patron de presse et les citoyens qui n'ont pas à rendre des jugements, c'est pas un tribunal de presse tel que le rêve M. Mélenchon, mais qui rend des avis pour dire là l'information, comme cela se fait en Belgique, par exemple, là l'information a été bien travaillée, entre guillemets, a été faite selon les règles, et là, ben non, les règles de la déontologie de ce métier n'ont pas été respectées. Non pas quelque chose qui sanctionne, pas un tribunal, pas un conseil de l'ordre, mais une instance de déontologie tripartite comme il en existe dans 20 pays d'Europe qui soit capable de dire aux citoyens qui se plaignent, mais dire effectivement on a regardé, peut-être que là vous avez raison, ou au contraire, là cette rédaction a très bien fait son travail et je pense que cet outil manque, un outil d'autorégulation où l'État n'a pas son mot à dire.
Catherine Neil.
Non, j'ajoute juste que en ce qui concerne les radios et les télévisions, nous avons un organe de régulation qui s'appelle le CSA et qui a la possibilité, au regard de la loi, d'adresser des mises en garde, des mises en demeure, des amendes qui peuvent être parfois assez conséquentes pour non-respect d'un certain nombre de règles sur nos antennes. Donc, effectivement, ça n'est pas un ordre de déontologie. Mais un organe de régulation.
Laurent Geoffrin, directeur de Libération, on parlait de cette loi, projet de loi pour lutter contre les fake news. Est-ce que ce projet de loi risque finalement de bâillonner la presse ? Certains le craignent.
Oui, il y a toujours des petits risques, je ne crois pas trop. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a mis en place un service spécial qui s'appelle Check News. Je suis désolé pour le franglais. Mais
qui consiste à vérifier.
Alors, c'est un service interactif, les gens posent des questions. Et enfin, les lecteurs posent des questions et il y a des journalistes, il y a une équipe de journalistes toute la journée qui répond par écrit et qui fait une enquête donc spécifique sur les questions posées et qui répond à chaque fois aux gens qui posent des questions. Alors, il y a plus de questions que de réponses parce que s'il fallait répondre à tous, on y passerait notre vie. Mais le service, c'est un gros succès, ça marche très bien. Et pourquoi ? Parce que justement, on voit la différence entre un travail journalistique et puis ce qu'on dit sur les réseaux sociaux sans trop y penser ou sans trop y travailler. Et évidemment, il y a une différence fondamentale, c'est que nous, on appelle les sources, on vérifie, on va voir les statistiques, on, on, regarde partout s'il n'y a pas des erreurs. Et, évidemment, parce que quand on fait un truc de vérification d'information, il ne faut pas se tromper. On a l'air de con. Donc on travaille. Mais ça a beaucoup de succès. Et je trouve que cette manière-là de répondre aux, entre guillemets, fake news, parce que souvent, évidemment, les questions viennent de rumeurs ou d'informations douteuses qui circulent sur Internet. Donc les gens disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vu ça? Etc. Donc on essaye de répondre à ça. Et on y arrive assez bien. Et c'est une expérience qu'on trouve très positive.
Et à ce propos, je reviens sur cette enquête Via Voice à l'occasion de ces Assises internationales du journalisme avec cette question qui a été posée. Comment recherchez-vous sur Internet une information sur un enjeu d'actualité? Le plus souvent, 38%, donc c'est le chiffre le plus important, vous faites une recherche sur un moteur de recherche et regardez les articles qu'on vous propose, quels que soient les médias qui les publient. Ce n'est pas une réponse quand même assez inquiétante, c'est 38%. Catherine Nail, c'est bientôt la fin de l'émission.
C'est vrai, Pierre, et je pense que la question de la traçabilité des nouvelles sur certaines plateformes est effectivement, qui est au centre d'ailleurs de la future loi fake news, est en tout cas une interrogation. Oui, cette traçabilité, nous, rédaction, je dirais, traditionnelle, nous pouvons la garantir à ceux qui nous écoutent ou qui nous lisent sur des moteurs de recherche, à travers des moteurs de recherche et sur de grandes plateformes. Je ne pense pas que cette traçabilité soit mise en place et existe.
Jérôme Bouvier, un mot, rapidement.
Oui, d'un mot, je pense que une des clés de la confiance retrouvée, c'est ce que vous venez de faire, ce que vous nous êtes proposé, c'est-à-dire le dialogue permanent des journalistes avec leur public. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu une arrogance, il faut le dire, des journalistes qui donnaient l'info, alors qu'aujourd'hui, les journalistes sont ramenés à leur rôle un peu plus humble, c'est que souvent nos publics apprennent l'info en même temps que nous, et donc il faut revenir à nos fondamentaux, et il faut pour ça dialoguer, je crois, de plus en plus sur les conditions d'exercice de notre métier, sur la façon dont nous travaillons et dialoguer avec nos publics à égalité, je veux dire, de droits et de devoirs, sur l'utilité qu'il attend de nos métiers. Et donc, ce que vous venez de faire, ce que nous faisons chaque année avec l'ensemble de la profession aux Assises du journalisme, eh bien, ça participe de ça. Il faut vraiment accepter la critique et aussi essayer de dédiaboliser un certain nombre de questions. Donc pour ceux que ça intéresse, demain, après-demain, samedi, venez à Tours, écoutez, d'ailleurs vous pourrez écouter Catherine Nail demain en direct, et puis vous pouvez suivre notre travaux sur journalisme.com.
Merci à nos invités, c'était le Téléphone Sonne, merci à Laurent Geoffrin, Jérôme Bouvier
merci
et Catherine
vous,
Nail.
Merci Pierre.